الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Le lieu de repos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa salam. Invocation d'Attar. Ô Allah Azza wa Jal. Quiconque lit ou écoute le livret de 26 pages intitulé « Le lieu de repos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa salam » permet-leur de visiter cet endroit magnifique avec le plus grand des respects et pardonne-lui ainsi qu'à ses parents sans qu'ils aient à rendre de compte. Amin, bijahi khatamin nabijin sallallahu alayhi wa sallam. L'excellence de l'envoi de la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Le dernier prophète d'Allah, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit « Allah azza wa jal a en effet placé auprès de ma tombe un ange à qui il a donné le pouvoir d'entendre toute la création. Jusqu'au jour du jugement dernier, quiconque récite la salat sur moi voit son nom et le nom de son père m'être présenté par cet ange. Il dit « Un tel, fils d'un tel, vient d'envoyer la salat sur vous. » Sallu ala al-Habib sallallahu ala Muhammad. Le dôme vert de la mosquée Un-Nabawi est universellement apprécié. Tous ceux qui aiment le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa salam cherchent à le voir au moins une fois dans leur vie. Quant au lieu de repos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa salam qui se trouve en dessous, il s'agit de l'endroit le plus sacré de Madina et de l'univers entier. Sallu ala al-Habib sallallahu ala Muhammad, le leader des deux mondes. Dans la partie à l'est de la mosquée, Un-Nabawi se trouve le lieu de repos sacré du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa salam. Ces chambres sacrées ont été faites pour lui lors de la première construction de la mosquée Un-Nabawi. Son épouse bénie, al-Mu'minin Sayyidatuna Aisha radiyallahu anha, y passa 9 ans avec lui. C'est pourquoi on l'appelle aussi la Ujra, chambre d'Aisha. À l'origine, elle était construite avec des murs en terre, tandis que le toit était constitué de branches et de feuilles de palmiers dattiers. Il s'agissait d'une conception simple pour les structures médinoises de l'époque. Le plafond dépassait d'un demi-mètre la taille humaine courante. Par la suite, des hujras similaires ont été construites autour d'elle pour d'autres nobles épouses du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa salam. L'expert en hadith de Delhi, Sheikh Abdul Haq rahmatullahi alayhi, a dit « Certaines hujras étaient fabriquées avec des branches de palmiers dattiers sans feuilles. Elles étaient ensuite recouvertes de tissus, tandis que les portes n'étaient constituées que de tissus. Toutes étaient construites face à la Kaaba, vers l'est ou vers la Syrie, aucune n'étant orientée vers l'ouest. Certaines étaient également construites en briques non cuites. Ceux qui considèrent que leurs maisons et leurs espaces de vie sont petits doivent penser à la maison estimée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa salam et faire preuve de patience et de gratitude. Sallu ala al-Habib sallallahu ala Muhammad. Le décès apparent et le repos dans la Hujra. Le décès apparent du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa salam eut lieu dans la Hujra de Sayyidatuna Aisha et il sallallahu alayhi wa alihi wa salam fut enterré au même endroit. Sayyidatuna Aisha radiyallahu anha vécut également le reste de sa vie dans cette chambre sacrée. Les deux premiers califes de l'islam et leur mise au tombeau. Lorsque le premier calife de l'islam, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, approcha de la fin de sa vie, il demanda que son cortège funèbre soit conduit au lieu de repos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa salam. Il demanda ensuite que l'on dise ce qui suit « Al-salamu alayka ya Rasulallah hada Abu Bakrin bilbab, que la paix soit sur vous, ô messager d'Allah, voici Abu Bakr à votre porte. » Il dit alors « Si la porte s'ouvre d'elle-même, emmenez-moi à l'intérieur. Sinon, enterrez-moi à Jannat ul-Baqi. » Lorsqu'il décéda de manière apparente, on apporta son corps à la porte et on dit « Que la paix soit sur vous. Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa salam, voici Abu Bakr à votre porte. » La porte se déverrouilla d'elle-même et une voix s'éleva. « Adkhilu al-Habib ili al-Habib, fanna al-Habib ili al-Habib et mushtaq. » Laissez l'ami rencontrer son ami comme l'un désire l'autre. Abu Bakr Siddiq fut mis au repos aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa salam, tandis que sa tombe fut faite de manière qu'il soit tourné directement vers les épaules sacrées du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa salam. Après une dizaine d'années, le deuxième calife de l'islam, Umar bin al-Khattab, radiallahu anhu, fut martyrisé. Il fut ensuite enterré dans la Hujra, à côté d'Abu Bakr Siddiq. Divisé en deux. La Hujra était divisée en deux parties. L'une abritait les tombes sacrées, tandis que l'autre était le lieu de résidence de Sayyidatuna Aïcha radiallahu anha. Un mur divisait ces sections. Elle-même se souvient. Quant à la partie de ma maison dans laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa salam et mon père ont été enterrés, je suis entré sans faire attention au voile, car mon mari et mon père étaient à l'intérieur. Lorsque Umar bin al-Khattab, radiallahu anhu, y fut enterré, alors par Allah azza wa jalla, je me voilais entièrement chaque fois que j'entrais dans cette partie de la maison, par respect et pudeur devant lui. Ceci met en évidence un point important. Sayyidatuna Aisha, radiallahu anha, savait que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa salam, et Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, la voyaient depuis leur tombe. Elle savait qu'il en était de même pour Umar bin al-Khattab, radiallahu anhu. Et c'est pourquoi, lorsque ce dernier fut enterré dans la Hujra, elle s'arrangea pour se voiler entièrement lorsqu'elle se trouvait dans cette partie de sa maison. Dans des circonstances normales, il n'existe aucune règle imposant aux femmes de se couvrir de cette manière devant les tombes. Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad. Personne d'autre ne fut enterré dans la Hujra par la suite. Après le troisième calife de l'islam, Uthman bin Affan, radiallahu anhu, ait été martyrisé à Madina, un groupe indiscipliné n'a pas permis qu'il y soit enterré, et il a donc été inhumé à Jannat ul-Baqi. Le quatrième calife de l'islam, Ali bin Abi Talib, radiallahu anhu, fut martyrisé loin de Madina, dans la ville de Koufa. C'est pourquoi il n'a pas non plus été enterré dans la Hujra. Lorsque le petit-fils du prophète, l'imam Hassan, radiallahu anhu, a été martyrisé avec du poison. Des tentatives ont été faites pour l'y enterrer. Marwan, le gouverneur de Madina à l'époque, était un adversaire acharné des Al-Ul-Bayt et vint armé pour empêcher cela. Pour éviter l'effusion de sang, l'imam Hassan, radiallahu anhu, fut alors déposé à Al-Baqi. Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad. Lorsque la porte se referma. Lorsque Sayyidatuna Aisha, radiallahu anha, décéda, elle fut enterrée à Jannat ul-Baqi. Un mur fortifié fut construit devant la porte de la Hujra pour empêcher quiconque d'y pénétrer. Après son décès apparent, la partie de la maison dans laquelle elle vivait est désormais vide. Étonnamment, il y a aussi une quatrième tombe dans la Hujra sans personne à l'intérieur. À l'approche du jour du jugement, le prophète Issa alayhi salam descendra sur terre. Après son décès apparent, il y sera enterré. Les murs et leur construction. Durant la vie visible du prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa salam, les murs de la Hujra étaient faits de matériaux en terre. Umar bin al-Khattab, radiallahu anhu, fut le premier à faire construire des murs fortifiés. Le Mujaddid du 1er siècle, Umar bin Abdul Aziz, radiallahu anhu, reconstruit ensuite la mosquée Un-Nabawi au 1er siècle et fit construire un mur à 5 angles sans porte autour de la Hujra, en préservant ses paramètres d'origine. La Maqsura. Il s'agit des grilles en fer et en laiton apposées autour du mur à 5 angles installées par Umar bin Abdul Aziz radiallahu anhu. Le roi égyptien Rukn ud-Din Baybaras fit construire pour la première fois une grille en bois en 668 de l'Hégire. Elle était de la taille de 2 personnes. En 694, Zain ud-Din Katabga la rehaussa pour qu'elle atteigne le plafond. Lorsqu'elle fut endommagée par un incendie accidentel en 886, de nouvelles grilles en fer et en laiton furent installées par le sultan Qait Bey. Les parties en laiton étaient orientées vers la Qibla, tandis que le reste était en fer. Il y a plusieurs portes dans la Maqsura elle-même. L'une d'entre elles fait face à la Qibla et est appelée Bab Ut Tawba. Une porte orientée vers l'ouest est nommée Bab Ul Wufud, tandis que le Bab Fatima est orienté vers l'est et le Bab Ut Tahajjud vers le nord. Elle reste fermée à l'exception du Bab Fatima, qui n'est ouverte qu'à l'occasion de l'arrivée d'invités officiels ou de délégations. Ces visiteurs peuvent seulement entrer dans la Maqsura, mais pas au-delà du mur à 5 angles, car ce dernier n'a pas de porte. Ce mur d'enceinte est également entouré de grands rideaux. Fausses images. Une photo de 3 tombes circule de nos jours, mentionnant l'une comme étant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa salam et les deux autres comme étant celle d'Abu Bakr Siddiq et Umar bin al-Khattab, radiallahu anhu. Cette photo est fausse, car ces tombes sacrées se trouvent à l'intérieur d'un mur à 5 angles qui ne comporte pas de porte d'entrée. Puisque ces tombes ne peuvent être vues de nos yeux apparents, comment et quand ces photos ont-elles pu être prises ? Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad. La construction du dôme vert. Au départ, la Hujra ne comportait pas de dôme. À partir du toit, les murs étaient construits à peu près à la moitié de la hauteur d'un humain moyen. Ainsi, quiconque montait sur la mosquée pour une raison particulière restait conscient de la sainteté, de la sensibilité et du décorum requis dans un lieu aussi béni. Il est intéressant de noter qu'au début du califat abbasside, une tradition de construction de dômes sur les tombes de personnalités importantes s'est développée. Au fil du temps, il est devenu courant de construire des coupoles sur les tombes de personnalités religieuses à Bagdad et à Damas. À Bagdad, le roi Seljoukide Malak Shah Alamo a construit un dôme sur la tombe de l'imam Abu Hanifa rahmatullah alayh au 5e siècle. La construction de dômes devint alors extrêmement populaire en Égypte, et un très grand nombre d'entre eux furent construits sur des tombes en très peu de temps. À l'avènement de la dynastie des Qalaoun, les dômes devinrent populaires dans tout le monde musulman. En raison de leur popularité en Égypte, le sultan Mansour Qalaoun décida d'en faire construire un sur la Hujra. Des experts égyptiens furent sollicités et un magnifique dôme en bois fut construit en 678 de l'Hégire. Celui-ci devint très prisé par tous les visiteurs, en raison de son attachement et de son lien avec le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa salam et son lieu de repos. Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad, une variété de dômes. Le premier dôme a apporté paix et réconfort au cœur musulman pendant un siècle. Au fil du temps, certains panneaux de bois recouverts de verre se sont usés. Le sultan Nasir bin Qalaoun les fit réparer. Plus tard, le sultan Ashraf Shaban bin Hussein bin Muhammad fit effectuer d'autres travaux en 765 de l'Égir. Au cours du siècle suivant, des travaux d'agrandissement à grande échelle du dôme furent entrepris, ainsi que des travaux de réparation sur le mur à cinq angles. Le sultan Ashraf Kaid Bey envoya d'abord un représentant pour préparer un rapport complet sur ce qui devait être fait. Ce rapport décrivait comment le mur à cinq angles de la Hujra avait besoin de réparations urgentes et que la partie du mur orientée vers l'est avait développé des fissures. Le 14 Shaban 881, les parties concernées du mur à cinq angles furent enlevées, l'ancien toit de la Hujra fut détaché et environ un tiers du nouveau toit fut construit sur le côté est. Cela donna au côté est un aspect similaire à une pièce située au-dessous du niveau du sol. Aucun toit ne fut installé sur les deux tiers restants. À la place, on plaça un petit mais magnifique dôme de pierre sculpté et décoré du côté du sommet de trois tombes sacrées. Il était recouvert de marbre blanc et orné d'un croissant en laiton. Le toit de la mosquée, ou Nabawi, fut ensuite surélevé suffisamment pour couvrir cette petite coupole, sur laquelle une coupole plus grande fut construite. La reconstruction commença le 17 Shabon 881 et s'acheva deux mois plus tard, le 7 Shawwal. Le sultan Qaid Bey vint à Madina le 22 Dhul-Hajj cette année-là. Il se tint devant la Maqsura pour faire le salam au prophète sallallahu alayhi wa alihi wa salam à l'endroit même où d'autres musulmans du monde entier le firent. Lorsqu'on lui demanda d'entrer dans la Maqsura, il dit « Je n'en suis pas digne. Si c'était possible, je me serais tenu encore plus loin pour présenter mon salam. » Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad. Quand la foudre frappa un mu'azzin durant l'adhan, le 13 du mois de Ramadan 886 de l'Égir, le temps était nuageux à Madina. Comme à l'accoutumée, le mu'azzin monta au sommet du minaret Ra'isiya pour donner l'adhan. Frappé par la foudre, il fut instantanément martyrisé. Le minaret tomba en direction de la mosquée Un-Nabawi. Un incendie se déclara et à cause de celui-ci et de la bousculade des gens qui se précipitaient pour quitter les lieux, 10 autres personnes perdirent la vie. Le dôme fut endommagé par le feu et des parties du minaret tombèrent. Certains débris sont même tombés dans la Hujra qui resta intacte. Les réparations nécessaires furent effectuées immédiatement. Cependant, un message contenant des informations détaillées sur cet incident fut envoyé au sultan Kaid Bey le 16 du Ramadan. Le sultan envoya plus d'une centaine de bâtisseurs, d'experts et d'ouvriers, ainsi que des matériaux pour les réparations. Le dôme extérieur endommagé fut enlevé. À la demande du sultan, un nouveau dôme fut construit en 892 de l'Égir et resta en place pendant des siècles. Lorsque le dôme vert fut construit, en raison des circonstances, le roi turc Mahmoud Bey Abdul Hamid fit enlever l'ancien dôme et en fit construire un nouveau en 1233 de l'Égir. Il fut peint en vert en 1253 de l'Égir, 1837. On l'appelle alors affectueusement le dôme vert. Il abrite 67 bouches d'aération, certaines rondes, d'autres rectangulaires. Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad. une petite ouverture dans les deux dômes. Le petit dôme de la mosquée comportait une ouverture, recouverte d'un fin treillis pour empêcher les oiseaux d'y pénétrer. Une fois ouverte, cette ouverture ne laissait aucune barrière entre la tombe sacrée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, et le ciel. Juste au-dessus, sur le côté sud du dôme vert, une autre ouverture fut faite. En cas de sécheresse, les habitants de Madina l'ouvraient, permettant ainsi à la lumière du soleil d'avoir l'honneur de pénétrer dans la Oujra. Les nuages de pluie apparaissaient alors et se mettaient à pleuvoir abondamment. Cette ouverture n'existe plus. Sallu ala al-Habib, salla Allahu ala Muhammad. Un spectre de couleurs. À travers les âges, le dôme était connu pour la couleur qu'il arborait à l'époque. Il était appelé Kubbat ul Bayda lorsqu'il était blanc, Kubbat ul Zarqa lorsqu'il était bleu et Kubbat ul Khadra lorsqu'il était vert, ce qu'il est resté jusqu'à aujourd'hui. Ce dôme occupe une place particulière dans le cœur des musulmans du monde entier. La construction de dômes verts sur les mosquées, en hommage à ce dôme vert au sommet de la mosquée Unabawa, est un signe de leur amour pour ce dôme. Certains ressemblent énormément au dôme vert par leur couleur et leur conception, comme la mosquée Kans ul Iman de Karachi. Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad. Les huit piliers de la mosquée Unabawa. Ces huit piliers sont porteurs d'une signification et de bénédictions profondes. Leurs noms sont inscrits dessus. Six d'entre eux sont visibles dans la Rawdat ul Janna, tandis que les deux autres se trouvent dans la Hujra. Premier, Ustuana Hanana. Ce pilier se trouve à droite et à proximité du mihrab du prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Avant la construction d'une chaire, le prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, prononçait ses discours en s'appuyant sur le tronc d'un palmier dattier. Lorsqu'une chaire fut installée, il commença à prononcer des sermons depuis ce tronc. Parce qu'il était désormais éloigné du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, le tronc de l'arbre se mit à pleurer et à se lamenter. On a dit que cela ressemblait au bruit que fait une chamelle enceinte. En voyant cela, toutes les personnes présentes commençaient à verser des larmes. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam descendit de la chaire et passa affectueusement sa main sur le tronc de l'arbre. « Si tu veux, je peux te laisser là où tu étais avant. » dit le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ou si tu veux, je peux te placer au paradis pour que ses habitants puissent manger tes fruits. Après un moment, le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam se tourna vers ses compagnons radiyallahu anhum et déclara « Il a choisi le paradis ». En raison de ses pleurs, le tronc d'arbre fut nommé Anana. Lorsque l'imam Hassan Basri rahmatullah alayhi prit connaissance de cet incident, il versa lui-même des larmes et dit « Ô gens, si le tronc inerte d'un palmier dattier peut pleurer lorsqu'il est éloigné du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alors pourquoi ne pouvez-vous pas pleurer? Sallu ala al-Habib sallallahu ala Muhammad 2, Ustuwana Aisha. Ce pilier est le troisième à partir de la tombe sacrée et de la chair. C'est ici que le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam accomplissait de nombreuses prières et s'asseyait souvent. De nombreux compagnons âgés, radiyallahu anhum, prièrent également ici. La mère des musulmans, Sayyidatuna Aisha Siddiqa, radiyallahu anha, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, a dit « Il existe un lieu extrêmement saint dans la mosquée Unnabawo. Si les gens venaient à la prendre, ils devraient tirer au sort pour y accomplir la prière en raison de l'affluence qui en résulterait. » Les compagnons cherchèrent à demander à Sayyidatuna Aïcha, ce qu'était cet endroit, mais elle refusa de l'expliquer. Lorsque Abdallah B. Zubayr, radiallahu anhu, continua à demander poliment, elle révéla où c'était, et il partit immédiatement pour y accomplir la prière surérogatoire. Les autres compagnons firent de même lorsqu'ils l'apprirent. L'endroit fut donc nommé Ustuwana et Aïcha. Une narration décrit ce lieu comme un endroit où l'invocation est sûrement acceptée. Sallu ala al-Habib. Sallallahu ala Muhammad. 3. Ustuwana Tauba. Ce pilier est le deuxième à partir de la tombe sacrée et le quatrième à partir de la chair. C'est ici que le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam avait souvent l'habitude d'accomplir la prière surérogatoire. C'était également un endroit où les voyageurs et les invités s'installaient. Lorsque des personnes pauvres ou nécessiteuses arrivaient, le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam s'asseyait ici pour leur enseigner le Coran et les règles de l'islam. Ce pilier est également connu sous le nom d'Ustuwana et Abu Lubabah. Le compagnon Abu Lubabah, Razallah, radiallahu anhu, s'est attaché à ce pilier pour que son repentir soit accepté. Il fit le serment de ne pas se détacher et de ne rien consommer avant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa salam ne l'ait détaché de ses propres mains bénies. Il n'était détaché que pour la prière et les besoins physiques essentiels. Environ 7 jours passèrent sans qu'il ne mange ou ne boive quoi que ce soit. Lorsqu'Allah azza wa jalla accepta son repentir, le prophète sallallahu alayhi wa salam le détacha de ses propres mains bénies. Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad 4. Ustuwanat us-Sarir, ce pilier est accolé à la Maqsura, à l'ouest d'Ustuwanat Tawbah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa salam séjournait à la mosquée Un-Nabawi pour l'itikaf, il plaçait ici son lit qui était fait de branches de palmiers dattiers. Il se reposait également sur une natte pendant de nombreuses nuits. Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad 5, Ustuwanat ul-Haras. Il est également connu sous le nom d'Ustuwana Ali. Le lion d'Allah, Ali bin Abi Talib, radiallahu anhu, accomplissait souvent la prière surérogatoire. Tandis que la nuit, c'est ici qu'il montait la garde pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad 6, Ustuwana Wufud. Il est situé derrière Ustuwanatul Haras. Lorsque des délégations arabes sont venues accepter l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a rencontrés ici à plusieurs reprises, tandis que ses compagnons s'asseyaient autour de lui. Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad 7, Ustuwana Jibril. L'archange Jibril alayhi sallam y est souvent descendu avec des révélations. Ce pilier est adjacent à la Hujra de Sayyidatuna Fatima radiallahu anha, en face de la soufa, construite vers la Qibla, et se trouve à l'intérieur de la clôture verte en treillis. Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad 8, Ustuwana Tahajjud. C'est là que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a accompli la prière de Tahajjud en de nombreuses occasions. Ce pilier se trouve devant la soufa, derrière la Hujra de Sayyidatuna Fatima radiyallahu anha, construite vers le nord, et se trouve également à l'intérieur de la clôture verte en treillis. Des étagères ont été placées à l'extérieur pour les copies du Coran, ce qui fait que ce pilier est difficile à voir aujourd'hui. Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad. Chaque pilier de la mosquée est béni. Ces 8 piliers de la mosquée Un-Nabawi sont en effet sacrés. Cependant, ce caractère sacré s'applique à chaque pilier de la mosquée et à l'ensemble de la mosquée elle-même. Chaque pilier de l'ancienne mosquée Un-Nabawi a été regardé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il n'y a pas de pilier sans que de nombreux compagnons radiallahu anhum n'y accomplissaient la prière. Anas bin Malik radiallahu anhu a dit « J'ai vu de nombreux compagnons âgés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se précipiter vers ces piliers à l'heure de Maghribine. Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad. » Il s'agit d'une zone de 22 sur 15 mètres dans la mosquée An-Nabawi qui s'étend de la chambre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa salam à la chaire d'où il s'exprimait publiquement. Le nom lui-même signifie « jardin du paradis ». Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa salam a annoncé « Ma baina bayti wa mimbari rawza'un min riyadil jannah ». Qu'entre ma maison et ma chaire, il y a un jardin des jardins du paradis. Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad, le mihrab du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. À l'heure actuelle, 4 mihrab se trouvent dans la mosquée Un-Nabawi. 1. Mihrab Un-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. 2. Mihrab Uthmani. 3. Mihrab Tahajjud. 4. Mihrab Sulaymani. Dans ce livret, seul le premier sera abordé. Lorsque la révélation est arrivée et que la Qibla a été changée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite dirigé la prière face à la Ustuwana Aisha pendant 14 ou 15 jours. Il a ensuite conduit face à la Ustuwana Hannana le 15 Sha'ban 2 de l'Hijr. Le Mihrab Un-Nabi sallallahu alayhi wa sallam se trouve ici, directement en face du drain d'or de la Kaaba à Mecca. À l'époque du prophète et des califes bien guidés, le mihrab n'existait pas sous la forme que l'on connaît aujourd'hui. Umar bin Abdul Aziz, rahmatullah alayh, a initié cela sur l'ordre de Walid bin Abdul Malik en 88 de l'Hijr. Maintenant, cette bonne innovation, Bidda Hassana, a été acceptée par toute l'Ummah musulmane. Et les mosquées à travers le monde sont construites avec un mihrab en forme d'arc. Cela nous enseigne un point important. Si quelque chose n'a pas eu lieu à l'époque des compagnons, cela ne le rend pas automatiquement inadmissible. Cette règle inclut les mihrab d'aujourd'hui, les chaires en marbre, les dômes et les minarets construits au sommet des mosquées, les constructions sur les tombes des pieux, l'adhan et les sermons donnés par microphone, la récitation de la salat sur le prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa salam, avant l'adhan, la célébration du maulid et l'organisation d'événements commémoratifs pour les saints de l'islam. Sallu ala al-habib, sallallahu ala Muhammad, la chair du prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa salam. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa salam, a dit « Mimbari Ali Hawzi, ma chair est sur ma fontaine, la fontaine de Kausar. » Il tenait une partie arrondie de la chair lorsqu'il prononçait ses discours. Les compagnons, radiyallahu anhum, s'en frottaient les mains en quête de bénédiction. Il a également déclaré « Mimbari Ali Tur'ain min Tura'il Jannah, ma chair est située dans un jardin parmi les jardins du paradis. » La chair d'origine. La chair du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa salam a été construite pour la première fois en l'an 8 de l'Hégire et comprenait trois marches. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa salam s'asseyait sur la première marche et gardait les pieds sur la deuxième. La chair elle-même avait une hauteur de 2 mètres et une largeur d'un mètre, tandis que chaque marche avait une longueur d'une main. La longueur de la partie centrale, contre laquelle le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa salam s'appuyait, était d'une verge. Lorsqu'il s'asseyait pour prononcer des discours, les parties de la chair sur lesquelles il posait les mains étaient plus hautes d'une main et de 2 doigts que la partie centrale. 5 panneaux de bois ont été installés sur 3 des côtés de la chair. Elle est restée intacte après le décès apparent du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa salam. Elle a perduré ainsi jusqu'au règne des califes bien guidés, radiyallahu anhum. La chair en marbre d'aujourd'hui est permise, bien qu'elle n'ait pas existé à l'époque des compagnons. L'endroit où Bilal, radiyallahu anhu, prononça l'adhan. En face de la chaire, située dans un jardin du paradis, dans la mosquée Un-Nabawi de Madina, on peut voir une belle plateforme en marbre. Elle est connue sous le nom de Mukabiriya. C'est de là que l'on prononce l'adhan et l'iqama. N'oubliez pas qu'il n'est pas prouvé que Bilal ibn Rabah al-Habashi, radiyallahu anhu, ait donné l'adhan à cet endroit. Le lieu exact est aujourd'hui difficile à identifier. En regardant les documents historiques à ce sujet. Lorsque l'adhan a été initialement ordonné, Bilal al-Habashi est monté au sommet d'une maison près de la mosquée An-Nabawi pour la prononcer. Un tabouret en bois a été fabriqué pour lui permettre de se tenir debout pour l'adhan, et il l'a utilisé jusqu'à son départ pour Damas. Il fut ensuite placé sur le toit de la maison de Sayyidatuna Hafsa bint Umar, radiyallahu anha. La famille de Sayyiduna Umar l'a ensuite conservée comme une relique de Bilal al-Habashi. Elle est restée ainsi pendant des siècles. Qutb ud-Din Hanafi, 990 de l'Hégire, l'a confirmé dans son récit historique de Madina. Le tabouret a été conservé comme relique à son époque et l'est resté même lorsque la maison familiale de Sayyiduna Umar a été transformée en madrasa. Depuis le début du XXe siècle, il n'est malheureusement plus visible. La Soufa. Soufa désigne un lieu d'abri ou d'ombre. Si l'on entre dans la mosquée Un-Nabawi par le Bab Jibril et que l'on fait quelques pas, on aperçoit la soufa sur la droite. Elle s'élève à 1,5 mètre du sol, mesure 12 mètres de long et 8 de large, et est entourée d'une exquise balustrade en laiton de 2 pieds 2 au lahoudela ou. Les visiteurs y récitent le Coran et accomplissent des prières. C'est ici qu'un groupe de compagnons de Muhajir, qui ne possédèrent pas beaucoup de richesses matérielles, a passé une longue période à apprendre l'islam et à polir leur cœur déjà propre. Leur nombre oscillait entre 70 et 400. Lorsque des dons charitables étaient apportés au prophète sallallahu alayhi wa alihi wa salam, il les transmettait à ses étudiants qui vivaient à la soufa. Il partageait également avec eux toute nourriture dont il avait été gratifié et en mangeait lui-même. Les étudiants de Soufa avaient une immense passion pour le savoir islamique malgré leur manque de moyens financiers. L'un d'entre eux, le célèbre compagnon Abu Huraira, radiallahu anhu, explique ce qui suit. « J'ai vu 70 élèves de Soufa sans le moindre châle. Ils avaient soit un tahband, soit une couverture, nouée autour du cou et laissée pendante. Le châle était suffisamment court pour atteindre la moitié du tibia. Pour certaines, il arrivait juste en dessous du genou et elles devaient le tenir pour ne pas laisser voir leur avra. » Sayyid Mujahid rahmatullahi alayh rapporte une autre déclaration de cet illustre compagnon. « Je prête serment sur celui en dehors duquel il n'y a pas d'autre Dieu. Il m'arrive de presser mon ventre et ma poitrine contre le sol parce que j'ai très faim. D'autres fois, J'attache une pierre à mon ventre pour rester debout. Lorsqu'il encourageait et soutenait ces étudiants inébranlables de l'islam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam déclarait: Si vous connaissiez la multitude de faveurs divines qu'Allah azzawajalla vous a préparées, vous diriez: Si seulement cette pauvreté et cette faim duraient plus longtemps. Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad.